Welcome to the Voice of America in French.
Bienvenue. La Voix de l'Amérique, service francophone vers l'Afrique.
Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30 PU et tous les soirs à 18h30 PU.
Et sur Internet à www.lavoixdelamérique.com.
Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à La Voix de l'Amérique. Nicolas Pineau avec vous ce soir, en direct de Washington pour ce journal. On commence par Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, où la police congolaise a dispersé ce samedi une manifestation de l'opposition. Une centaine de policiers sont intervenus pour disperser plusieurs dizaines de manifestants regroupés près de l'hôtel Memling. Plusieurs personnes ont été interpellées parmi les manifestants qui demandaient la libération des détenus politiques et le respect de la Constitution en vue de la présidentielle de 2016. Écoutons Bruno Mavungu, secrétaire général de l'UDPS.
Comme de coutume, ces marches ont été réprimées. Nous dénombrons de blessés, de personnes évanouies avec le gaz lacrymogène ou enlevées et conduites dans des destinations inconnues. De l'argent, des téléphones portables, des montres et des caméras arrachées. Les forces politiques et sociales condamnent cette sauvagerie et exige la libération sans condition de toutes les personnes enlevées.
Voilà Bruno Mavungu, le secrétaire général de l'UDPS. L'Ouganda affirme avoir déjoué ce samedi un attentat imminent du groupe Al-Shabaab. La police ougandaise a annoncé sans autre précision avoir procédé à des arrestations. Les autorités ougandaises ont annoncé la découverte d'une cellule terroriste des Shabab à Kampala, a déclaré de son côté l'ambassade des États-Unis à Kampala dans un communiqué. Et toujours concernant le groupe somalien, dont le leader Ahmed Abdi Godan a été tué par une frappe américaine, c'était le 1er septembre, les proches de François Hollande confirment que c'est grâce à un renseignement français transmis aux Américains que l'opération a pu avoir lieu. Ahmed Abdi Godan était l'une des dix personnes les plus recherchées pour terrorisme par les États-Unis.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Il est 18h32, temps universel dans le reste du monde. Le secrétaire d'État américain John Kerry a affirmé ce samedi que l'Égypte était en première ligne dans la lutte anti-terrorisme au terme de sa tournée régionale destinée à recueillir le maximum de soutien pour combattre les djihadistes en Syrie et en Irak. Alors que les États-Unis s'activent pour mettre en place une coalition internationale visant, selon le président Barack Obama, à affaiblir puis à détruire l'État islamique, M. Kerry a achevé ce samedi au Caire une mission qui l'a conduite à Bagdad, Amman, Jeddah et Ankara. Vladimir Poutine veut éliminer l'Ukraine en tant qu'État indépendant. Selon le Premier ministre ukrainien, Arseniy Yatsenyuk pense que l'objectif du président russe est de reformer l'Union soviétique. Selon le Premier ministre ukrainien, les négociations ne sont possibles qu'avec les États-Unis et l'Union européenne. De son côté, Moscou accuse Washington de vouloir couper les liens économiques entre l'Union européenne et la Russie. Déclaration faite par Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, au lendemain de l'entrée en vigueur de nouvelles sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Et puis je vais vous donner quelques résultats de football en Europe, puisque c'est le week-end et qu'on joue sur les terrains. Pour sa première apparition de la saison, Franck Ribéry a marqué le deuxième but de la victoire du Bayern de Munich. C'était en Allemagne contre Stuttgart, 2-0. Et puis autre résultat sur les terrains européens, c'est bien évidemment en Espagne. Neymar, la star brésilienne qui est revenue évidemment de sa convalescence après la blessure contractée lors du match contre la Colombie. C'était à la Coupe du Monde brésilienne cet été. Et bien Neymar est sorti du banc et il a inscrit 2 buts contre l'Athletic Bilbao, ce qui permet au Blaugrana du FC Barcelone de poursuivre le sans-faute en tête du championnat d'Espagne, et ce avant le grand choc de cette troisième journée qui bien sûr va opposer le Real de Madrid au grand rival pour le derby, l'Atlético. Ce sera évidemment ce soir. Vous êtes toujours à l'écoute de La Voix de l'Amérique. Nicolas Pineau avec vous dans ce studio. Je vous donne rendez-vous dans une petite heure. En attendant, vous allez retrouver la suite de vos programmes sur La Voix de l'Amérique.
Washington, la voix de l'Amérique, tous les soirs à partir de 18h30 temps universel et les matins du lundi au vendredi à partir de 5h30 TU. Washington, la voix de l'Amérique. Nous vous proposons maintenant un programme en rediffusion.
Camille Grosdidier avec vous pour cette édition de Carrefour Science et Santé, un programme que je vous invite à suivre également sur le réseau Afrique Santé de la VOA. Quelques titres tout d'abord. Après l'Organisation mondiale de la santé, c'est au tour de l'Union africaine de se réunir pour discuter de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola.
Il s'agit de forger une vision commune de la maladie à virus Ebola et d'adopter une approche collective au niveau du continent qui prenne en compte son impact socio-politique et économique.
Tous les détails avec Nathalie Barge. Une équipe de chercheurs vient de découvrir les frontières du continent de galaxies dans lequel la Voie lactée est intégrée.
De nouvelles mesures de la vitesse des galaxies de notre voisinage ont permis d'identifier le superamas dans lequel est logée la Voie lactée, notre galaxie.
On suivra les précisions de Morgan Guiriec. Et Jacques Aristide nous parlera du monstre qui hantait la Patagonie dans le sud de l'Argentine il y a quelque 77 millions d'années. Un dinosaure parmi les plus titanesques à avoir jamais foulé la surface de la Terre. On commence tout de suite avec l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola. Eh bien, l'Union africaine va se réunir d'urgence lundi pour définir une stratégie à l'échelle du continent sur l'épidémie d'Ebola qui ne cesse de s'étendre en Afrique de l'Ouest. Nathalie Barge.
Le Conseil exécutif de l'Union africaine a précisé dans un communiqué que la réunion se tiendra au siège de l'organisation à Addis Abeba. Elle examinera également les mesures de suspension des vols et fermetures de ports et frontières et la stigmatisation des pays touchés et de leurs ressortissants. Il s'agit de forger une vision commune de la maladie à virus Ebola et d'adopter une approche collective au niveau du continent qui prenne en compte son impact socio-politique et économique, ajoute le texte. Les pays membres de l'Union africaine s'inquiètent de la fermeture des frontières et de la suspension des vols décidés par un nombre croissant de compagnies aériennes et de pays. Le dernier bilan de l'épidémie publié par l'Organisation mondiale de la santé montre une nette progression par rapport à celui de la semaine dernière. Les pays les plus touchés restent le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Le Nigeria est affecté dans une moindre mesure, même si l'inquiétude grandit. Le ministre nigérian de la Santé, Onyebuchi Chukwu, a annoncé que le virus Ebola a fait 7 morts et infecté 18 personnes, dont un médecin décédé le 29 août à Port Harcourt, dans le sud du pays. Pour l'OMS, le cas du médecin est particulièrement préoccupant dans la mesure où il avait continué à traiter des patients et avait donc été en contact avec plusieurs personnes. L'agence onusienne a averti que l'épidémie de maladie à virus Ebola à Port Harcourt risque de se propager plus vite que celle de Lagos, capitale économique du Nigeria. Un premier cas a été également recensé au Sénégal, celui d'un Guinéen qui avait passé la frontière. Et une épidémie d'une autre variante du virus Ebola s'est déclarée en République démocratique du Congo. Pour l'instant, elle est circonscrite.
Entre-temps, un nombre croissant de voix se font entendre pour dire que l'ampleur prise par l'épidémie de virus à Ebola nécessite une réponse nettement plus radicale. Des précisions avec Awa Faliba.
L'Organisation mondiale de la santé a évoqué la nécessité urgente d'une intensification spectaculaire de l'action internationale, vu que près de 40% du nombre total des cas notifiés se sont produits au cours des 3 dernières semaines. Elle a rassemblé à Genève en fin de semaine près de 200 experts pour discuter de possibles remèdes et vaccins contre la maladie et des mesures à prendre pour enrayer la propagation du virus. Par ailleurs, la Commission européenne a annoncé vendredi l'octroi d'une aide de 140 millions d'euros aux pays les plus affectés par l'épidémie de fièvre à virus Ebola en Afrique de l'Ouest, à savoir la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria et le Nigeria. Sur cette nouvelle enveloppe, 38 millions d'euros sont spécifiquement destinés à aider les autorités de ces pays à améliorer leurs services de santé. Il est également prévu de fournir une aide en matière de sécurité alimentaire, d'eau et d'assainissement, domaine essentiel pour préserver la santé de la population. Dans un communiqué, la Commission a dit suivre de très près non seulement l'épidémie d'Ebola, mais aussi ses conséquences sur le développement des pays concernés.
Ici Washington, la Voix de l'Amérique, Amie Grosdidier avec vous pour cette édition du magazine hebdomadaire Carrefour Science et Santé. Toujours concernant la fièvre hémorragique à virus Ebola, le président Barack Obama a tenu cette semaine à s'adresser aux habitants de l'Afrique de l'Ouest. C'était pour partager leurs préoccupations face à l'épidémie d'Ebola et rappeler qu'il est en leur pouvoir de se protéger. On écoute le président Barack Obama.
Bonjour, je voudrais m'adresser directement à vous pendant quelques minutes, à vous, le peuple d'Afrique de l'Ouest, notamment au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée et au Nigeria. Au nom du peuple américain, je veux que vous sachiez que nos prières accompagnent ceux qui ont perdu des êtres chers lors de cette terrible épidémie d'Ebola. En collaboration avec nos partenaires à travers le monde, les États-Unis travaillent avec vos gouvernements pour contribuer à stopper cette maladie. Et la première étape dans cette lutte, c'est de connaître les faits. D'abord, l'Ebola ne se transmet pas par voie aérienne comme la grippe. Vous ne pouvez pas l'attraper lors de contacts ordinaires, par exemple en étant assis à côté d'un passager dans un bus. Une personne n'est pas contagieuse lorsqu'elle ne présente pas de symptômes comme de la fièvre. Deuxièmement, le mode de transmission le plus courant est le contact direct avec les fluides corporels d'une personne infectée ou qui en est décédée, sueur, salive ou sang par exemple, ou avec un objet contaminé comme une seringue. C'est pour ça que la maladie se propage plus rapidement lorsque les patients sont soignés chez eux ou qu'ils sont inhumés par leur famille ou leurs amis. C'est pour ça que les travailleurs de la santé portent des équipements protecteurs tels que des gants et des masques. C'est pour cela que si vous vous sentez mal parce que vous avez une forte fièvre, vous devez immédiatement aller vous faire soigner. Parce qu'en étant traité sans tarder dans un centre médical, près de la moitié des patients guérissent. Et c'est pour cela que lorsqu'on enterre quelqu'un qui a succombé à cette maladie, il est important de ne pas toucher le corps directement. Vous pouvez respecter vos traditions et honorer vos proches sans mettre en danger les vivants. Stopper cette maladie ne sera pas facile. Mais nous savons comment le faire. Vous n'êtes pas seul. Ensemble, nous pouvons soigner ceux qui sont malades dans le respect et la dignité. Nous pouvons sauver des vies. Et nos pays peuvent travailler ensemble pour améliorer la santé publique afin que ce genre de flambée ne se reproduise plus. Dans cette tâche urgente et dans la construction d'une Afrique plus forte et plus prospère, vous continuerez à trouver un partenaire en moi et dans les États-Unis d'Amérique.
On écoutait le président des États-Unis, Barack Obama, un dernier appel. La fièvre à virus Ebola est hautement contagieuse lorsqu'on entre en contact avec les fluides des malades, c'est-à-dire sueur, saignement, sel, etc. Donc, il est conseillé aux familles de ne pas toucher les malades à main nue ou les morts présumés de l'Ebola, mais de faire plutôt appel au personnel spécialisé qui saura comment se protéger contre la contagion. Washington, la Voix de l'Amérique, vous suivez Carrefour Science et Santé. Au micro, Camille Grosdidier. Une nouvelle carte de l'univers local a permis de délimiter une immense structure contenant des dizaines de milliers de galaxies. Morgan Guiriec.
Une équipe de recherche internationale vient en effet de découvrir les frontières du véritable continent de galaxies dans lequel la Voie lactée est intégrée. Ils lui ont donné le nom hawaïen de Laniakea, c'est-à-dire « horizons célestes immenses ». Cette découverte a fait la une de la revue scientifique Nature, datée du 4 septembre 2014. Dans l'univers, les galaxies sont localisées dans des groupes ou amas qui sont eux-mêmes reliés par un réseau de filaments. Lorsque ces réseaux se rencontrent, ils forment des superamas de galaxies, les plus grandes structures de l'univers. Elles rassemblent la quasi-totalité de la matière, celle qui forme les atomes constituant les planètes et les étoiles, mais aussi la mystérieuse matière noire. De nouvelles mesures de la vitesse des galaxies de notre voisinage ont permis d'identifier le superamas dans lequel est logée la Voie lactée, notre galaxie. Notre superamas est un gigantesque regroupement de galaxies de 500 millions d'années-lumière de diamètre. Il contiendra environ 100 000 grosses galaxies et près d'un million de galaxies plus petites. Au sein de l'Agnakéa, les galaxies s'écoulent comme de l'eau vers une région centrale surnommée Grand Attracteur, une sorte de vallon où se déverse la matière.
Vous suivez Carrefour Science et Santé, un programme de La Voix de l'Amérique, au micro Camille Grosdidier. Au chapitre de la lutte contre le tabagisme, l'une des principales chaînes de pharmacies américaines a cessé tout bonnement cette semaine de vendre du tabac dans ses quelques 7700 magasins. Jean-Roger Bion.
Ces ventes représentaient pourtant 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an, mais CVS Caremark a décidé de faire davantage pour la bonne santé de ses clients et change de nom, adoptant celui de CVS Health, en français CVS Santé. La société compte par ailleurs lancer une campagne contre le tabagisme à travers les États-Unis. Ses pharmacies vont déployer des affiches et autres signes appelant le public à renoncer à la cigarette. Malgré de nets progrès, seulement 18% de la population américaine fume à l'heure actuelle, contre 42% en 1964. 480 000 Américains meurent encore chaque année de maladies liées au tabagisme. Cette habitude reste la principale cause de décès prévenables aux États-Unis. CVS Health vend dans ses magasins aussi bien des médicaments que des boissons sucrées, des fournitures scolaires ou encore des produits d'entretien et proposait donc également jusqu'à cette semaine du tabac.
Carrefour Science et Santé est diffusé par La Voix de l'Amérique, au micro Camille Grosdidier. L'Afrique n'est pas épargnée par le fléau du suicide, même si c'est l'Asie qui demeure la région la plus touchée alors que l'Europe n'est pas loin derrière. C'est ce qui ressort du tout premier rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur la prévention du suicide. L'OMS dénombre 800 000 cas chaque année dans le monde, soit un toutes les 40 secondes et davantage que les victimes de guerre ou de catastrophes naturelles. La majorité des personnes qui se suicident ont plus de 50 ans. Le suicide touche deux fois plus d'hommes que de femmes, indique encore l'OMS qui juge l'ampleur du phénomène tout à fait inacceptable. Pour un éclairage, Jacques Aristide s'est entretenu avec le docteur Alexandra Fleischmann de l'OMS.
Le suicide est un problème mondial. Il y a plus de 800 000 morts chaque année dans le monde. Les pays avec revenus élevés sont affectés en même façon que sont affectés les pays avec moins de revenus. Donc, il faut agir et il faut agir maintenant parce que le suicide, on peut le prévenir.
Mais dites-nous, qu'en est-il de la situation en Afrique ?
En Afrique, on a moins de statistiques quand même. On est dans une situation où on peut faire des estimations et les estimations disent que le taux de suicide est en croissance en Afrique.
Alors, donc, c'est un nombre important de suicides dans le monde. Quelles sont les raisons qui expliquent cette situation ?
Pour expliquer ce phénomène, on doit trouver des réponses multiples. Il y a des facteurs de risque et ça sont les problèmes de santé mentale, mais aussi les problèmes avec l'abus des substances ou alcool particulièrement. Mais c'est aussi des problèmes si on a quelqu'un qui est affecté par la violence ou la isolation. Ou aussi si la société et le système de santé peut offrir des services pour aider à des personnes qui en ont besoin.
Il y a la directrice générale de l'OMS, Margaret Chan, qui a déclaré qu'il faut agir pour répondre à un grave problème de santé publique resté trop longtemps tabou. Quelles sont les mesures que préconise l'OMS ?
Les mesures que nous proposons, c'est de réduire l'accès aux méthodes de suicide, par exemple les pesticides et les armes à feu. Aussi, il faut que les médias jouent un rôle important dans la prévention des suicides. Ils peuvent aussi donner une information ou trouver de l'aide. Et une autre intervention est d'introduire des politiques contre abus d'alcool. Et aussi, dans le niveau individuel, si on a une personne qui a déjà fait une tentative de suicide, il faut donner de l'aide, il faut aussi suivre cette personne. Et au niveau du service de santé, il faut apprendre aux assistantes qui travaillent dans la santé, il faut leur apprendre d'identifier et traiter les maladies psychiques et aussi l'abus d'alcool.
Alors, peut-être pour revenir sur les statistiques que vous avez publiées, donc vous dites que plus de 800 000 suicides par an dans le monde, les hommes et l'Asie plus touchés. Y a-t-il des raisons précises qui peuvent expliquer cela? C'est-à-dire pourquoi les hommes et l'Asie sont les plus touchés?
Oui, il n'y a qu'une réponse, mais une interprétation importante est que l'homme ne cherche pas de l'aide. Donc, les femmes sont plus ouverts à chercher d'aide, mais les hommes ne sont pas. Ils le gardent le problème sur eux-mêmes.
Le docteur Alexandra Fleischmann du département de santé mentale à l'OMS, elle était jointe à Genève par Jacques Aristide. Camille Grosdidier avec vous pour Carrefour Sciences et Santé, ici Washington, la voix de l'Amérique. Environnement, eh bien, un juge américain a statué cette semaine que le géant pétrolier britannique BP a commis une faute grave dans l'explosion d'une plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique qui a coûté la vie à 11 travailleurs et provoqué une vaste marée noire en 2010. Le point avec Anne Albertson.
L'arrêt rendu par le juge fédéral Carl Barbier de la Nouvelle-Orléans en Louisiane confronte BP à des amendes pour dommages et intérêts qui pourraient atteindre 18 milliards de dollars, car le juge a estimé que le groupe britannique a été imprudent dans la gestion de sa plateforme pétrolière Deepwater Horizon. L'écoulement du pétrole a été le résultat de graves négligences de la part de BP et d'une faute délibérée, a écrit le juge Barbier dans sa décision portant sur le volet civil de la procédure judiciaire. Toujours selon le juge Barbier, BP a ignoré des signes avant-coureurs de l'instabilité du puits de pétrole et a pris des décisions qui ont été essentiellement motivées par le désir de gagner du temps et de l'argent au lieu de s'assurer que la plateforme était sécurisée. Le gouvernement américain estime que des centaines de millions de litres de pétrole se sont déversés dans le golfe du Mexique et sur environ 1700 km de côte. Le montant exact des dommages et intérêts dépendra du calcul par la justice du nombre de barils de brut déversés dans le golfe du Mexique et attribués à BP. Le groupe britannique s'est déclaré fortement en désaccord avec ce jugement et a annoncé son intention d'interjeter appel. Déjà mardi, le groupe américain de services pétroliers Halliburton avait accepté de verser 1,1 milliard de dollars pour mettre fin à l'amiable à un recours en nom collectif lié aux dommages causés par la marée noire de 2010, un accord que doit valider la justice américaine. Le recours collectif contre Halliburton concernait des dommages à des propriétés et des pertes dans le secteur de la pêche commerciale après la marée noire. L'argent sera versé à un fonds pour compenser les victimes. Halliburton avait construit le coffrage du puits Macondo, exploité par la plateforme offshore Deepwater Horizon de BP. Ce dernier a déjà versé une amende pénale de 4,5 milliards de dollars et accepté de verser 7,8 milliards de dollars à des particuliers et à des entreprises affectées par la marée noire.
Ici Washington, la Voix de l'Amérique, plus de 99% de la population adulte mondiale consomme près de deux fois la quantité de sel recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Lionel Gaïma.
On sait que l'excès de sel, en particulier dans la sauce de soja, les ragoûts épicés ou les aliments transformés, fait courir un risque important de maladies cardiovasculaires. Des chercheurs de l'Université Tufts ont constaté que les adultes de 181 pays pour lesquels les données étaient disponibles avaient consommé en moyenne 3,95 grammes de sodium par jour en 2010, alors que l'Organisation mondiale de la santé recommande qu'on se limite à 2 grammes par jour. On attribue à cet excès de sel jusqu'à 1,65 million de décès par an. L'étude a noté que 40% de ces décès surviennent chez des personnes de moins de 70 ans, donc relativement jeunes. La grande majorité de décès précoces étaient signalés dans des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Les pays où la consommation de sel serait plus faible sont le Kenya, le Cameroun et le Gabon, ce qui expliquerait en partie que le Kenya connaît le plus faible taux de décès par maladie cardiaque et AVC. Par contre, le taux de mortalité par maladie cardiovasculaire le plus élevé était signalé en Géorgie avec plus de 2000 décès par million d'individus. Les experts disent que près de 10% de tous ces décès attribués aux maladies cardiovasculaires peuvent être attribués à la consommation excessive de sel. L'auteur principal de l'étude, Darius Mozafarian, note que les taux d'accidents vasculaires cérébraux sont énormes en Chine, en Europe de l'Est et en Asie centrale. L'étude a été publiée dans le New England Journal of Medicine.
Pour finir, cette édition de Carrefour Science et Santé, un programme qui vous est offert par la Voix de l'Amérique, eh bien, un monstre hantait les vastes étendues de la Patagonie dans le sud de l'Argentine il y a quelque 77 millions d'années. Un dinosaure parmi les plus gigantesques à avoir jamais foulé la surface de la Terre. Mais comment le sait-on ? Jacques Aristide explique.
Il appartient à la famille des titanosaures, des dinosaures herbivores géants, nombreux au Crétacé supérieur. On l'a baptisé Dreadnoughtus Schrani, le Dreadnought étant un navire de guerre britannique lourdement blindé. Environ 77 millions d'années après avoir été enseveli lors d'une crue, son squelette fossilisé a été mis à jour par des scientifiques de l'Université Drexel de Philadelphie aux États-Unis. Kenneth Lacovara, qui a dirigé l'équipe, estime que l'animal, dont l'apparence rappelle celle du Diplodocus au très long cou, mesurait 26 mètres de long et pesait près de 59 tonnes. Entre 2005 et 2009, les chercheurs ont pu mettre à jour plus de 70% des os du géant, soit bien plus que les autres titanosaures précédemment découverts. Parmi ces os, un fémur d'1,80 m, la richesse du fossile devrait leur offrir une occasion rare d'étudier l'anatomie et le taux de croissance de l'espèce. Pour M. Lacovara, il ne fait aucun doute que ce titanosaure passait la plupart de la journée à manger pour satisfaire aux besoins caloriques de son énorme corps qui pesait autant qu'un troupeau d'éléphants africains. Il ne craignait probablement aucune autre créature pouvant disposer de la moindre menace d'un simple coup de sa gigantesque queue. La Patagonie fait la joie des paléontologues, car à l'époque des dinosaures, la région était couverte d'arbres capables de satisfaire les besoins alimentaires des grands herbivores. Les chercheurs vont de découverte en découverte et signalaient d'ailleurs en mai dernier la mise à jour d'un autre titanosaure encore plus gigantesque que le Dreadnoughtus Schrani.
Voilà, ainsi s'achève cette édition de Carrefour Science et Santé de la Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Gros-Didier, qui vous remercie de l'avoir suivi.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion.